Professeur Bouvenot, bonjour.
Bonjour Monsieur Folli.
Professeur Bouvenot, aujourd'hui nous allons parler de polyarthrite rhumatoïde.
Alors la polyarthrite rhumatoïde est l'un des deux grands rhumatismes inflammatoires avec la spondylarthrite. C'est une maladie hélas assez fréquente, puisqu'on considère qu'environ 150 000 Françaises et Français en sont atteints, ce qui est tout de même assez considérable. C'est une maladie qui est caractérisée par de l'inflammation articulaire. On parle d'arthrite, on parle de synovite, avec une perte de fonction articulaire si on ne traite pas suffisamment tôt et, j'allais dire, suffisamment fort.
C'est donc une pathologie très invalidante.
C'est une pathologie qui, sans traitement, est très invalidante. Les anciennes patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, avant l'apparition des nouveaux traitements disponibles actuellement, allaient vers l'invalidité sans qu'on puisse faire grand-chose. Actuellement, c'est tout à fait différent. On a des espoirs, non seulement des espoirs, mais des réalités thérapeutiques et bien sûr des espoirs thérapeutiques qui font que nous pouvons, dans la très grande majorité des cas, donner des coups d'arrêt à la progression de cette maladie, autrement dit, obtenir des rémissions et des rémissions prolongées. On ne peut pas parler de guérison encore en l'état, mais ce que nous voulons, c'est réduire l'évolutivité de la maladie et donc obtenir des rémissions, et ça, on y arrive.
Professeur, je crois que ces progrès dans la prise en charge de cette pathologie sont dus à l'apparition de biotechnologies qui sont assez récentes.
La prise en charge s'est considérablement modifiée, c'est à peu près depuis une dizaine d'années. Mais non seulement parce qu'on dispose de nouveaux médicaments très actifs, mais aussi parce qu'on a pris conscience qu'il n'y avait pas lieu de réserver ces médicaments à des formes très très sévères ou bien en fin d'évolution. Autrement dit, ce qui permet de dire maintenant qu'on peut prendre en charge correctement une polyarthrite rhumatoïde, c'est aussi parce qu'on la prend en charge précocement. Encore faut-il avoir un diagnostic. On reproche souvent aux rhumatologues de ne pas faire des diagnostics dans la minute. Mais le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas le diagnostic d'une colique néphritique. Ça demande un certain nombre de présomptions. On ne peut pas parler de polyarthrite rhumatoïde si on n'a pas un ensemble de signes qui évoluent depuis un certain temps. Et parmi ces signes, il y a un signe important qui est la durée de l'enraidissement matinal. Les malades atteintes ou atteints de polyarthrite rhumatoïde sont raides le matin. Leurs articulations sont enraidies. Ils ont besoin de déverrouiller, de dérouiller leurs articulations. Et généralement, ça prend, oui, ça peut prendre 30 minutes. Et en tout cas, pour nous, quand ça dépasse 30 minutes, c'est un signe d'inflammation. Il y a aussi le fait que, pour parler de polyarthrite rhumatoïde, il faut que les symptômes ne datent pas d'hier. Donc, il faut que ces symptômes aient au moins 6 semaines de continuité par rapport aux arthrites aiguës qui, elles, vont durer quelques jours. Par exemple, une arthrite aiguë de goutte, ça va durer quelques jours. Ça ne dure pas 6 semaines ou au-delà. Et enfin, il faut, enfin, entre autres, il faut aussi qu'un certain nombre d'articulations soient touchées. Ce sont les articulations, j'allais dire, spécifiquement touchées dans la polyarthrite rhumatoïde. Quelles sont les arthrites qui font penser à la polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, les arthrites des poignets et les arthrites des articulations des mains, et particulièrement les métacarpophalangiennes et les interphalangiennes proximales. Quand ce sont les interphalangiennes distales, on pense davantage à un rhumatisme psoriasique. Mais pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est les métacarpophalangiennes et les interphalangiennes proximales. Et puis, bien entendu, on va s'aider de l'imagerie et de la biologie. Mais, au tout début, l'imagerie ne montre pratiquement rien. Il n'y a pas encore, fort heureusement, ces érosions que nous essayons de dépister le plus rapidement possible, parce que ces érosions sont celles qui préludent à la destruction progressive de l'articulation, ce que l'on veut éviter à tout prix. Et puis la biologie. Alors bien sûr, l'AVS est très souvent très élevé, de même que la protéine C-réactive, la PCR. Ce qui est caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde, c'est bien sûr la positivité du facteur rhumatoïde et la positivité des anticorps anti-CCP. Mais ce facteur rhumatoïde et ces anticorps anti-CCP ne sont pas fréquemment positifs au début de la maladie. Leur positivation se fait en cours de maladie. Et donc, au tout début, c'est surtout la clinique qui va nous guider pour faire un diagnostic. Et je le répète, il faut quand même que ce diagnostic, même s'il doit prendre 6 semaines, soit précoce.
Donc, en termes clairs, un rhumatologue est un bon observateur.
Un rhumatologue est d'abord un observateur attentif, mais c'est aussi un praticien qui ne travaille pas dans la précipitation ni dans la hâte. Autant nous comprenons que certains patients puissent être désireux très vite de savoir quelle est leur étiquette, passez-moi cette expression, parce que d'une certaine manière, s'ils sont étiquetés par leur médecin, ils savent ce qu'ils ont, mais aussi ils peuvent penser que le médecin saura quel traitement le plus approprié il faudra leur donner. Mais le rhumatologue, d'un autre côté, n'est pas un praticien qui souhaite trop vite faire un diagnostic, lequel pourrait être erroné s'il était trop précoce. Or, un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, on va le voir dans un instant, ça impose un traitement, et quelquefois un traitement agressif. Et il n'est pas question de traiter agressivement par des médicaments des patients dont on n'est pas sûr qu'ils ont la polyarthrite rhumatoïde.
Professeur, je crois que la médication à cette polyarthrite rhumatoïde est aussi curative en ce qui concerne la douleur.
Oui, alors, les traitements de la polyarthrite rhumatoïde, d'abord, ne sont pas que des traitements médicamenteux. Il y a tout l'environnement, et cet environnement, nous le connaissons, c'est non seulement l'intervention du rhumatologue, mais celui du médecin de médecine physique et de réadaptation, c'est le kinésithérapeute, c'est l'ergothérapeute, et puis bien sûr, quelquefois, le chirurgien, car on a recours à la chirurgie articulaire lorsque c'est nécessaire. Mais commençons par les médicaments. Les médicaments, devant une polyarthrite rhumatoïde, il ne suffit pas de calmer la douleur et l'inflammation. Encore une fois, il faut donner un coup d'arrêt, même provisoire, à la maladie. Bien sûr qu'on commence par donner des antalgiques, comme du paracétamol. Bien sûr que l'on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens en respectant les règles habituelles, c'est-à-dire à la posologie minimale efficace et pour des durées les plus brèves possibles. Mais nous savons bien qu'en tout début de prise en charge, les traitements de fond que l'on associe aux traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens n'agissent pas tout de suite et qu'il faut un délai. Et par conséquent, les AINS sont le traitement de premier recours en tout début. Quelquefois, on a recours à la cortisone, à la prednisone. En particulier, si les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas une action suffisante sur la douleur et l'inflammation, mais aussi lorsque le malade représente par lui-même une contre-indication à l'emploi des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et pour la corticothérapie, c'est la même chose. La dose minimale efficace est le moins longtemps possible. Mais en dehors de ces traitements symptomatiques, qui peuvent d'ailleurs s'associer à des traitements locaux, des infiltrations, quand la polyarthrite rhumatoïde est une oligoarthrite, ou même quelquefois une monoarthrite au début, il faut privilégier les traitements locaux. Par exemple, les infiltrations d'un dérivé cortisonique. Quoi qu'il en soit, dès que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est fait et que l'on a commencé le traitement symptomatique, antalgique et AINS, il faut envisager un traitement de fond. Et le traitement de fond le plus souvent utilisé, et dont on connaît bien l'efficacité, est le méthotrexate. On le donne à des posologies qui vont de 10 mg à 25 mg par semaine en une fois, qu'on peut associer à un folate. Ce méthotrexate met à peu près un mois à manifester son efficacité, d'où ce que je disais tout à l'heure de l'intérêt des anti-inflammatoires non stéroïdiens au tout début. Tous les patients ne sont pas parfaitement répondeurs au méthotrexate. Certains peuvent avoir une rémission sous méthotrexate, d'autres sont seulement légèrement améliorés. Donc le méthotrexate a ses limites. Mais il y a d'autres traitements de fond en dehors du méthotrexate, d'autres traitements de fond chimiques, en particulier la salazopyrine, mais aussi le leflunomide. Il est rare que l'on donne de la cyclosporine, mais on peut en donner. Quant aux antimalariques de synthèse et aux sels d'or, ils peuvent avoir encore leur utilité, mais ils ne sont plus beaucoup prescrits, car ce ne sont pas les produits les plus efficaces. Mais ce que nous observons, c'est que dans un certain nombre de cas, le méthotrexate ne suffit pas. Et comme nous voulons à tout prix induire des rémissions et donc préserver les structures articulaires de la destruction progressive, nous donnons des médicaments que vous évoquiez tout à l'heure et qui sont ce que l'on appelle des biothérapies. Anticorps monoclonaux ou récepteurs solubles, on dispose à l'heure actuelle de trois grands médicaments, l'infliximab, l'étanercept et l'adalimumab. On dispose également, en cas d'échec ou d'insuffisance de ces traitements, de deux autres biothérapies que sont le rituximab et la batacept. Le rituximab ayant été initialement, et étant toujours d'ailleurs, un traitement dans certaines hémopathies malignes lymphoïdes. Avec ces traitements, on arrive à obtenir des résultats brillants, mais leur utilisation demande un certain nombre de précautions. Parmi ces précautions, il y a d'abord ce que l'on doit faire avant d'avoir le droit d'instaurer un tel traitement. Et puis ensuite, il y a la surveillance. Alors comme ce sont des traitements, les trois que j'ai cités, infliximab, étanercept, adalimumab, qui sont tout de même de forts immunosuppresseurs et qui peuvent entraîner soit une explosion d'une infection latente chez nos patients, et en particulier une tuberculose, un abcès dentaire, que sais-je, soit favoriser la survenue d'infections, il faut nous assurer que ces patients, lorsque nous commençons à les traiter par ces biothérapies, sont indemnes de risques importants d'infection. Et donc, on va s'assurer par une intradermo-réaction à la tuberculine, par une radiographie systématique de thorax, par un panorex dentaire, par un examen des urines bactériologiques, que ces patients ne sont pas infectés de manière latente. Après quoi, on est autorisé à commencer l'une de ces trois biothérapies, le plus souvent en association au méthotrexate. Pas toujours, mais le plus souvent en association au méthotrexate. Et ce sont des traitements par voie injectable. Pour l'infliximab, c'est de la perfusion intraveineuse, et pour les deux autres, ce sont des injections sous-cutanées. Cela suppose d'avoir discuté avec le patient, d'abord de bien le connaître, de savoir s'il ne préférera pas plutôt venir en hôpital de jour pour une perfusion, par exemple tous les deux mois, ou bien s'il préfère être un peu indépendant de nous, ou bien si nous lui faisons davantage confiance. À ce moment-là, il peut se soigner en effet par des injections sous-cutanées qu'il pratiquera lui-même. Mais surveillance, ça veut dire que, de la même manière que pour le méthotrexate, on doit s'assurer que l'hémogramme n'est pas trop perturbé, que les transaminases restent à des taux normaux et que les fonctions respiratoires que l'on contrôle annuellement ne sont pas altérées, de la même manière, avec les biothérapies, on surveille l'hémogramme, les transaminases, la survenue possible d'une infection. J'ajoute que chez les patients qui ont une intradermo-réaction particulièrement positive à la tuberculine et que l'on est obligé de traiter par biothérapie, on commence par un traitement antituberculeux systématique.
Professeur Bouvenot, lorsque vous traitez une polyarthrite rhumatoïde, quels sont les buts recherchés ?
Alors les buts ont changé depuis la dernière décennie. Nous ne sommes plus des praticiens un peu passifs qui se contente de calmer des douleurs et d'essayer de réduire une inflammation articulaire. Nos objectifs sont, au-delà du traitement symptomatique, de prévenir, de contrôler la progression de la maladie et de ses complications, de prévenir la perte de fonction dans les activités quotidiennes et d'améliorer la qualité de vie de nos patients.
Professeur Bouvenot, je vous remercie beaucoup.
Merci, monsieur Pouli.